mon cher Lionel, c'est déjà notre dernière émission sur la préhistoire avec un approfondissement de nos connaissances sur le néolithique. Alors mon ami, tristesse, désillusion, joie.
Non, j'ai hâte.
On a déjà appris que le néolithique voulait dire pierre nouvelle, qui est en fait une pierre polie faite pour défricher hein, à l'époque, et qui s'impose comme le marqueur historique relatif au passage du mésolithique au néolithique. Mais notre archéologue préféré est Estelle Yvain nous a bien fait comprendre qu'il faut aller au-delà de la simple terminologie. Le néolithique est davantage représenté par la capacité de stockage qui fera naître une véritable hiérarchisation de la population. Également aussi par l'amélioration de l'agriculture et de l'élevage en sélectionnant pour cela des espèces de plantes ou d'animaux aux propriétés plus importantes pour l'humanité, mais qui n'auraient pas pu survivre sans elles finalement. C'est la sélection qui n'est plus naturelle justement. Alors aujourd'hui, très chère Estelle, qu'allons-nous donc apprendre de plus dans ce merveilleux voyage qu'est la préhistoire? Et si tu es douée, tu as 40 minutes pour nous finir un néolithique et s'il te plaît, nous faire un résumé de toute cette période préhistorique avec les différents marqueurs que nous avons pu voir pour les passages d'une période à l'autre. Estelle, c'est pas facile, on te remercie beaucoup, on te dit un grand bonjour évidemment et on te laisse la parole.
Très bien, alors bonjour à tous.
Bonjour Estelle.
Donc, on a du challenge encore aujourd'hui, comme toujours avec la préhistoire. Ce qu'on va commencer par faire, c'est donc caractériser le néolithique dans différentes régions.
Oui.
Et les régions où il n'y a pas de néolithique, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Comment évolue après ce néolithique? Comment évolue la société, en gros, avec l'introduction donc, de l'agriculture et de l'élevage?
C'est ça.
Et puis, on abordera très rapidement donc cette toute fin du néolithique le tout début de la proto-histoire en Europe avec l'âge du bronze. Donc, tout cela en moins de 40 minutes, puisqu'après, c'est un résumé, mais bien sûr.
Et donc, on sait que donc là, on finira, tu finis ta période en 3500 avec la fameuse naissance de l'écriture, en tout cas sur la partie Europe, peut-être, ou sur la partie Moyen-Orient.
Alors, la naissance de l'écriture, donc ça va être au Proche-Orient, donc en 3005 avant Jésus-Christ.
Oui.
Mais alors en Europe, on n'est pas du tout à ce moment-là dans l'écriture, puisqu'on est en plein néolithique.
Ah d'accord.
Donc en fin de période, donc à la toute fin, la fin du néolithique en Europe, c'est 2500 avant Jésus-Christ.
D'accord.
Et le début de l'écriture au Proche-Orient, c'est 3500 avant Jésus-Christ. Donc il y a quand même 1000 ans d'écart, et pendant ces 1000 ans, ben, nous on est dans la préhistoire, eux ils sont déjà dans l'histoire.
D'accord. Alors je ne sais pas si tu te souviens, Estelle, c'est ma pauvre, on ne te prend qu'une fois par mois, on aimerait tellement plus. Mais donc tu nous avais déjà parlé de ces sociétés qui s'étaient hiérarchisées grâce au stockage, tu nous avais parlé de ces tombes qui étaient de plus en plus importantes en fonction justement de cette hiérarchisation de la population. Classe sociale, Lionel. On avait commencé à parler d'élevage, d'agriculture, on avait commencé à parler d'artisanat avec la poterie qui permettait de stocker. On avait commencé à parler du sel également. Toutes ces choses-là qui avaient fait évidemment avancer d'un bond ce fameux néolithique.
Qui a fait avancer d'un bond ce néolithique. Alors ce néolithique, eh bien, il apparaît dans différents foyers dans le monde, pas à la même époque exactement. Donc on ne peut pas imputer strictement la naissance du néolithique à des changements climatiques, puisqu'il apparaît dans des régions complètement différentes au niveau bioclimatique. Et pas la même période. Mmh. Donc nous, ce qu'on connaît bien, c'est le néolithique du Proche-Orient. C'est le système Proche-Orient qu'on connaît bien, puisque l'Europe dépend du Proche-Orient.
D'accord.
Au néolithique. Donc un système, voilà, où il y a la naissance de l'agriculture et l'élevage. On stocke les aliments. Et puis on invente progressivement la poterie. La poterie viendra un petit peu plus tard. Et on voit la population qui se structure, les villages qui grossissent. Et puis, très logiquement, dans une parfaite continuité, parce que là, au Proche-Orient, on est dans la continuité, il n'y a pas de rupture. dans une parfaite continuité. Donc ces groupes humains qui sont plus nombreux, qui vivent dans des villages de plus en plus gros, ces villages de plus en plus gros vont finir par devenir des villes. Et donc, il est très logique que, étant donné que le néolithique, pour notre grande zone culturelle, apparaît au Proche-Orient, les premières villes, elles apparaissent également au Proche-Orient. Et puis, les premières écritures, elles apparaissent au Proche-Orient.
D'accord.
Donc, tout ça, c'est dans une logique parfaite de...
Et si on prend les choses de manière très matérialiste, on pense au Paris des années 1700, 1800, qui est toujours caractérisé comme une ville vraiment sale, vraiment presque un dépotoir. Comment ils ont réussi à régler ça, eux, tout de suite? Parce que tu nous dis que ça prend de l'importance. C'est quoi de l'importance à l'époque, une ville qui prend de l'importance en termes de population?
Une ville qui prend de l'importance, donc c'est une population qui augmente. Alors, il ne faut pas imaginer qu'ils vont être exempts de toutes ces maladies qui sont liées au fait qu'il y a une plus grande proximité avec les animaux, une plus grande proximité avec les humains. En fait, on constate que c'est les anthropologues qui travaillent là-dessus. En fait, qu'au néolithique, les gens ils sont en moins bonne santé qu'au paléolithique.
Ah.
Voilà. On voit ça par les squelettes. Les maladies imprègnent les certains ossements, donc on le voit, ils ont beaucoup plus de caries.
Ouais.
Parce que avec une alimentation, quand on commence à transformer les aliments, donc quand on récolte du blé, on va faire de la farine, on va faire du pain, on transforme l'aliment. Donc ces aliments transformés contiennent beaucoup plus de sucre. Et donc on a des traces au néolithique de caries, de diabète. Des choses qui n'existaient pas ou très peu, beaucoup moins en tout cas au paléolithique. Sauf dans certains groupes qui utilisaient leurs dents pour faire pour travailler les tendons en fait. Bon là, il y avait plus de caries évidemment. Mais sinon, pour beaucoup de populations en fait, il n'y avait pas de caries, enfin beaucoup moins. Et donc, y a certaines maladies comme ça qui vont devenir beaucoup plus importantes.
Sait-on quelque chose sur la résistance aux épidémies? Est-ce qu'ils étaient plus résistant, moins résistant?
Moins résistant au départ, puisqu'ils n'étaient pas encore immunisés.
Ouais.
Donc on se souvient des populations amérindiennes qui ont été décimées par les maladies des Européens, donc 15e, 16e siècle. Voilà, c'est la même chose. La proximité avec les animaux va faire que des maladies vont se propager et la population de certaines régions va être décimée aussi. Donc et puis ils vont s'immuniser au fur et à mesure face à ces maladies. Donc on a des populations qui sont en moins bonne santé qu'au paléolithique.
D'accord.
Alors pourquoi est-ce que ça augmente par contre? Pourquoi est-ce qu'on a quand même une forte croissance démographique? Donc ça c'est donc comme je l'avais expliqué, c'est parce que en fait avec la sédentarité, les femmes ont des grossesses plus rapprochées, donc elles ont plus d'enfants. Voilà.
Et par contre, j'imagine avec un gros taux de mortalité.
Avec un gros taux de mortalité.
Ouais.
Ouais, avec un gros taux de mortalité, et puis avec des gens qui meurent plutôt jeunes, avec pas mal de maladies qui se propagent. Donc non, ils n'ont pas résolu le problème. L'eau était polluée, très vite dans les villes. Tous ces problèmes-là n'ont pas été réglés. Par contre, il y a l'immunité qui s'est construite au fur et à mesure.
D'accord. D'accord.
Et alors par contre, le processus ne va pas être le même en Europe occidentale, par exemple. En Europe occidentale, c'est vraiment, comme j'ai dit à la dernière fois, c'est le néolithique qui est amené. Donc on n'a pas une évolution sur place des populations mésolithiques qui se transforment petit à petit en néolithique.
Ouais.
On a une importation complètement du phénomène.
D'accord.
Et on le voit aussi bien par l'outillage taillé. Moi, je travaille là-dessus. Donc on voit des ruptures techniques. Mais on voit aussi au niveau de la génétique... des populations, on voit un import de populations qui viennent du Proche-Orient. Donc ça, la génétique, les analyses ADN permettent d'aujourd'hui de découvrir ce genre de choses, de tracer ce genre de choses.
Mais tu nous
disais
que c'est
vraiment des populations qui viennent du Proche-Orient.
Tu nous disais que Sapiens, pour moi Sapiens c'était Sapiens, donc on avait tous les mêmes gènes, que ce soit au Proche-Orient,
oui,
en Europe.
Oui, on n'a pas exactement le même génome, et puis il y a des choses, des petites choses qui se distinguent. Et on peut connaître l'origine géographique des gens grâce aux analyses ADN. Donc,
d'accord.
C'est particulièrement passionnant. Mais il n'y a pas que la génétique. Donc, quand on travaille en préhistoire, il ne faut jamais s'intéresser qu'à un seul domaine. parce que il peut y avoir trop de biais, on peut être trompé. Bon, voilà. Il faut vraiment cumuler les domaines pour réussir à obtenir quelque chose de cohérent. Donc, quand on parle d'import de population, ça va être vraiment parce qu'on va constater également une rupture technique dans l'outillage, on va constater une utilisation de roches différentes, de techniques de fabrication différentes. Il va y avoir pas mal de choses qui vont nous permettre d'affirmer qu'il y a une rupture technique et puis une rupture de population. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que donc les premières populations du néolithique ancien, bah, elles sont très proche-orient. Et puis, on constate qu'au néolithique restant, bah, il y a eu pas mal de mélanges avec ceux qui étaient restés un peu chasseurs-cueilleurs. En Bretagne, par exemple, on est resté plus longtemps chasseurs-cueilleurs. Ou au Danemark, dans des régions où on peut allier les ressources terrestres et les ressources maritimes, les gens sont restés plus longtemps chasseurs-cueilleurs. Et puis, on voit du coup des génomes qui commencent à se mélanger. Voilà. Un héritage génétique qui est plus mélangé au néolithique récent.
D'accord.
Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Et quand tu dis qu'il y a des régions qui sont passées beaucoup plus tard au néolithique, est-ce qu'on peut parler de retard? Est-ce qu'on peut...
Non, on ne peut pas parler de retard. Parce que il est loin d'être complètement convaincant que de dire que le néolithique c'est un plus. Voilà, parce qu'en fait, tout simplement, en devenant éleveur agriculteur, on s'est quand même mis un bon boulet au pied parce que ça demande quand même beaucoup plus de travail.
Oui.
Pas forcément. On voit par exemple des populations au Japon où les populations étaient capables de grandir et puis de se développer sans agriculture et élevage malgré la densification de la population, parce que là on a un milieu très très riche. Ils sont pas rentrés dans le néolithique. Ils sont pas rentrés dans le néolithique. Ils vont commencer à faire de l'agriculture et l'élevage, ce qui correspond pour nous à l'époque des Gaulois. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle néolithique chez nous, et pourtant ils ont fait du stockage, et pourtant ils ont des sociétés très hiérarchisées. Ils ne sont pas passés par cette phase élevage et agriculture parce que ils n'en avaient pas besoin. En fait, les populations qui ne vont pas passer au néolithique sont les populations soit qui vivent dans des milieux trop favorables, donc ils ont tout ce dont ils ont besoin, soit trop défavorables pour faire de l'agriculture et l'élevage.
D'accord.
Donc on a ces deux écarts-là. On n'a pas de néolithique, par exemple en Arctique, chez les Inuits, on n'a pas de néolithique. On n'a pas de néolithique chez la plupart des groupes aborigènes en Australie, dans le désert australien. Et puis on n'a pas de néolithique chez Jaumont parce que ils ont tout ce qu'ils veulent. Voilà.
Tout simplement.
Donc des situations qui peuvent être différentes.
Un petit mot, Estelle, sur les villes, la situation géographique. Est-ce que la problématique de l'eau fait que ces premières villes, là, je ne sais pas comment on les avait, les proto-villes, se trouvent près de rivières, près de lacs ou près de sources d'eau?
Le rapport à l'eau est toujours fondamental. Même pour des chasseurs-cueilleurs mésolithiques, ils ont besoin d'eau de toute façon. Donc, on n'a pas d'habitat s'il n'y a pas de point d'eau ou de source dans les environs proches, en fait. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, vous savez bien, le Tigre, le Frat,
voilà.
Les premières grandes villes connues, ils sont toutes à côté de fleuves, autour du Nil, tout ça. Et puis c'est la même chose partout dans le monde, en fait. On a besoin d'eau, donc le rapport à l'eau est fondamental. La question, évidemment, c'est de se demander, la rivière, l'eau, d'accord, et la mer dans tout ça. Est-ce qu'on a une littoralisation aussi des activités comme ce qu'on peut constater aujourd'hui, des choses comme ça? Là, c'est beaucoup moins évident, en fait. Comme on a des populations qui viennent du Proche-Orient, qui vont traverser, elles vont mettre 5000 ans à aller du Proche-Orient jusqu'en France, par exemple.
Ah, c'est long, là, ouais.
C'est long, là, on le fait en quelques heures en avion, eux, ils mettent 5000 ans, quand même. Donc, le but est évidemment pas d'aller le plus loin possible. Le but, c'est de gagner des territoires parce qu'ils n'avaient plus assez de terres, tout simplement. Ouais. On n'est pas dans une logique de colonisation, d'invasion. On est vraiment dans l'objectif de... on bouge un petit peu parce qu'il n'y a plus assez de terres à un endroit. Ouais. On a épuisé le sol et puis on va ailleurs. Et au bout de quelques générations, ça fait quelques dizaines de kilomètres et ainsi de suite. Donc,
il n'y a pas, alors, tu vois, il n'y a pas à l'époque les Magellan, tous ces Marco Polo et ainsi de suite.
On n'est pas du tout là-dedans.
Non mais je veux dire, quand tu nous avais parlé il y a deux émissions de cela, la découverte par exemple de l'Australie, ça paraît fou quoi d'aller traverser un bras de mer, alors que là on a l'impression qu'il suffit de marcher quand même pour atteindre de l'Iran, pour atteindre l'Europe.
On n'est pas dans la même logique en fait. Là avec au paléolithique, t'étais avec des chasseurs-cueilleurs. Qui eux suivent les troupeaux, qui changent et tout ça, qui sont nomades. Qui ont un mode de vie nomade. Néolithiques, ils sont sédentaires. Donc, ils construisent leur maison, ils construisent leur truc.
Mais c'est pas la vache qui voulait aller en Australie, quoi.
Oui, mais c'est pas, tu vois, c'est pas. C'est moins voyageur, quoi. Mm-hmm. C'est moins voyageur, c'est pas.
D'accord.
On est avec des groupes de sédentaires. Alors, il y a peut-être eu parmi ces gens, évidemment, quelques explorateurs, hein, mais ce n'est pas fondamentalement le groupe qui va être comme ça. En fait.
Oui, c'est petit saut par petit saut, quoi.
Voilà, c'est petit saut par petit saut pour ces populations d'éleveurs et d'agriculteurs. C'est petit saut par petit saut, effectivement. Parce que, de toute façon, des agriculteurs, ils ont besoin de connaître leur milieu pour réussir à adapter les plantes au milieu, tout ça. Donc, ils vont pas partir de Méditerranée pour aller en Europe du Nord. Ils pourront jamais planter ce qu'ils ont à planter, ce qu'ils ont l'habitude de faire pousser. Mmh. C'est juste impossible. Donc, à partir du moment où on est agriculteur, on dépend des régions bioclimatiques. Donc, on ne va pas en changer comme ça, en fait. Mmh. Donc, la logique est vraiment complètement différente. On est avec des populations. Donc, le but, c'est de réussir à faire son agriculture. Mmh. Et puis, les plantes vont s'adapter au fur et à mesure qu'on monte. Mais ils peuvent pas monter d'un coup comme ça. Enfin, donc là, ils ont l'habitude du Proche-Orient, de la région méditerranéenne. Donc, pour ceux qui sont par le Gardias. Donc, il y en a qui vont, en fait, aller jusqu'en Europe en suivant le littoral méditerranéen. Et puis, il y en a d'autres qui vont passer par le Danube. Donc à l'intérieur. Alors nous, donc dans l'Ouest, on a beaucoup été alimentés par ces populations qui viennent du Danube, donc qui ont quitté la côte depuis très longtemps. Donc c'est pas du tout des pêcheurs. Mmh. Et ça va être assez surprenant, c'est-à-dire que les populations que l'on connaît, autant au Mésolithique, ils ont beaucoup exploité le littoral là, et au Néolithique. Et ben, on voit que l'exploitation du littoral est bien moindre. On n'a plus ces énormes tas de coquilles qui étaient caractéristiques du mésolithique qu'on appelle des amacoquiers. Là, c'est fini. On n'a plus ça. Les gens, c'est des agriculteurs. Donc, ils vont beaucoup moins sur le littoral. Ils exploitent beaucoup moins le littoral qu'au mésolithique. Il n'y a que à la fin du néolithique qu'on va retrouver en Europe de l'Ouest. Une exploitation du littoral beaucoup plus importante avec l'exploitation des ressources maritimes du littoral.
C'est donc bizarre parce qu'on a tous appris en géographie que les grands ports comme Marseille, comme Anvers et ainsi de suite, tous ces grands ports dépendent des échanges internationaux et c'est ça qui a développé les villes, c'est ça qui a développé les pays. Et toi, tu nous dis qu'à cette époque-là, ces ports-là, ça n'existe pas en fait.
Non, ces ports-là n'existent pas. Les populations qui viennent du sud, on a deux grands courants qui vont amener le néolithique en Europe. On a le courant cardiaque qui va suivre le littoral méditerranéen. Mmh. Donc là, ils vont garder le contact avec la mer. Et puis le courant qu'on appelle rubanais, danubien, qui va suivre le Danube et pour arriver jusqu'en Europe occidentale. Et eux, ils n'ont pas de contact avec la mer.
D'accord.
Eux, c'est pas des marins.
Mais alors,
donc,
si, peut-être que c'est pas du tout.
Donc voilà.
Peut-être que
cette connaissance du littoral, ils l'auront plus en fait.
Et si c'est peut-être pas du tout ta période, alors, mais quand est-ce que ça commence ces fameux échanges maritimes? Parce qu'on avait commencé à parler de sel également à la précédente émission. Donc le sel se faisait par voie terrestre également.
Alors après, donc ça c'est au néolithique ancien. Et plus donc ils vont avec le temps, ils vont s'adapter à leur environnement eux aussi. Et on va constater qu'ils vont de plus en plus exploiter le littoral. Et on a des preuves qu'au néolithique récent, ils exploitaient déjà le sel marin. Comme je vous ai dit, ils recommencent à avoir des amas coquillés, donc à manger beaucoup de coquilles, de coquillages marins, de poissons. Mais là, c'est à la fin du néolithique. au début du néolithique, non, pas du tout.
D'accord, mais ça c'est la consommation de sel ou de en tout cas de coquillages marins ou autres. Mais moi je te parle d'échanges
qui ont fait les grands ports
et ainsi de suite.
Ils vont se multiplier au néolithique sur de très grandes distances. Mais une fois de plus, c'est pas des groupes qui se déplacent. Là, c'est certainement des marchands qui colportent leurs trucs, voilà. Mmh. Donc c'est pas des groupes. Et par contre, oui, on va retrouver alors qu'au mésolithique, en fait, on a peu d'échanges à grande échelle. Au néolithique, on commence à avoir des objets de prestige. Mmh. Alors, ces objets de prestige, c'est des objets qui demandent beaucoup de techniques de fabrication très sophistiquées et qui sont faits en matériaux souvent lointains. On a par exemple les fameux haches carnassiennes qui sont en jadéite qui vient des Alpes. Mmh. On a des perles en varicite, dans l'ouest de la France, on a des perles en varicite qui viennent d'Espagne. On a de la fibrolite qui vient d'Espagne. On a de l'ambre qui vient de la Baltique. Il y a tout un travail de pétro-archéologie, c'est comme ça qu'on appelle, qui permet de déterminer l'origine de ces roches et ainsi de pouvoir comprendre mieux ces échanges.
Mais tu vois, là, tu nous parles de minéraux qui sont finalement donc naturels. Donc ça, moi, je peux bien comprendre que l'humain ait trouvé ça. Et en effet, des couronnes, des colliers ou tout ce que tu veux. Mais tu nous as parlé tout à l'heure du bronze. Alors, ça vient peut-être plus tard. Mais comment on est passé? Comment on a réussi à créer un alliage comment ça peut traverser l'esprit, ça, de se dire qu'on va changer la nature pour créer un alliage?
Alors là, c'est l'âge du bronze.
Donc, ça, c'est ta période ou c'est pas du tout ta période dans la... C'est quand l'âge du bronze?
L'âge du bronze, c'est juste après le néolithique.
Ah, d'accord.
C'est juste après le néolithique, c'est l'âge du bronze, ça commence en 2500 avant Jésus-Christ.
Ah, d'accord.
Donc, et on est sur autre chose. Il faut savoir qu'avant l'âge du bronze, il y a eu l'âge du cuivre.
Alors déjà, le cuivre, c'est dingue, ça. Comment on a réussi à créer le cuivre? Qui pense à quelque chose comme ça? Comment on fait ça?
On ne crée pas le cuivre, on l'utilise. Hein, mais ce qui est intéressant, ouais, c'est ça, c'est la métallurgie. C'est le début de la métallurgie, en fait. C'est l'invention de la métallurgie. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comme toujours au départ, certainement par hasard. Hein. Mmh. Mais avant de faire ça, je vais quand même parler peut-être du sel.
Oui.
Puisqu'on était branchés dessus. Alors, le sel, comment est-ce qu'on en arrive là aussi? Le sel, il faut savoir qu'en tant que grand mammifère, on est attiré par le sel.
Ah.
Tous les grands mammifères sont attirés par le sel.
Ah, au quoi? Au niveau odeur, au niveau goût, au niveau quoi?
Au niveau goût, au niveau... voilà, on est attiré par le sel. Les chasseurs le savent bien, hein, s'ils veulent bien chasser, ils mettent du fourrage salé, et puis ben, les chevreuils, les sanguinons ont tendance à venir à côté. Voilà. Donc, en tant que grand mammifère, on est attiré par le sel. Bon, il suffit de voir les enfants sur la plage quand il y a des petites traces de sel sur les rochers. Ils la grattent, ils la mangent, là. Mm-hmm. Voilà. Et on le fait tous, en fait, pour que les enfants. Donc, on est attiré par le sel. Donc, au départ, c'était certainement du sel opportuniste, hein, ce grattage de rochers qui permet d'obtenir du sel. Ça a bon goût, on le mange. Voilà.
Et pourtant, Estelle, évitez de manger trop salé, trop sucré.
Hein. Ouais, trop sucré, trop salé, trop gras aussi, là. Voilà.
Oui, oui, oui.
Et donc, du coup, ce sel, certainement, par hasard, au départ, ils ont constaté que ça permet aussi de conserver des aliments. Donc ça, c'est certainement venu par hasard en se trompant. Et ils ont commencé, il y a cette période de cueillette du sel, hein, de ramassage complètement opportuniste. Et puis, la question, c'est à partir de quand, en fait, on a commencé à produire du sel, à être des producteurs à ce niveau-là. Mmh. Donc, pour cela, il faut trouver des structures, des vestiges qui montrent qu'on a produit du sel. Donc là, c'est les analyses à l'intérieur des céramiques qui permettent, en fait, de savoir que des gobelets, à l'intérieur de ces globules, on mettait de la saumure, donc c'est-à-dire de l'eau de mer, de l'eau très 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 salée, très condensée en sel, et dessous on mettait le feu. Et on le sait parce qu'on dedans on retrouve des différentes propriétés qui permettent de savoir qu'est-ce que ça a contenu du sel. Voilà.
D'accord.
Alors ça commence quand? Ça commence au néolithique récent. Et on a ça donc en Vendée, On a ça également dans le Jura, où on a pas mal de toponymes qui sont liés au sel dans le Jura. Et puis, on a des concentrations de richesses dans ces régions-là. Le sel était une source de richesse. Donc, beaucoup d'archéologues soupçonnent que dans le golfe du Morbihan, on devait également produire du sel, puisque c'est dans le golfe du Morbihan qu'on a la plus grande concentration de mégalithes en Europe occidentale. Mmh. Donc voilà. Il s'est probablement passé quelque chose, mais pour le moment, voilà, les preuves évidentes mentent encore. Mais autour du sel.
Ça, je sais que tu en es assez fier, parce que tu nous l'avais déjà dit, que le Morbihan était très riche grâce à ses mégalithes.
Ouais.
Et tu nous disais tout à l'heure, tu nous disais de manière assez convenue pour toi que certainement ça s'est fait par hasard qu'on a découvert que le sel conservait les aliments. Tu es en train de nous dire un petit peu que tout le progrès de l'humain s'est fait un petit peu par hasard, ou non, il y a eu de la réflexion quand même?
Alors, il y a toute une partie des progrès humains qui sont certainement faits au hasard. Et puis, il y a toute une partie qui sont des faits strictement culturels. Parce que il y a le sel, par exemple. Donc ça, on en a besoin. C'est clair que quand on n'a pas de réfrigérateur, conserver dans le sel, c'est quand même bien pratique. Et puis, il y a tous ces outils qu'on fait où on se donne énormément de mal pour les fabriquer. Mmh. Ça, depuis le paléolithique supérieur. Et pour rien.
Ah oui.
En final. Que pour du prestige, certainement social, mais pas pour rien techniquement, pas pour rien socialement, ça c'est sûr. Mais qu'on fait pour prestige social et tout ça, quand on voit certaines très fines lames du paléolithique supérieur qui sont entièrement retouchées, elles font elles sont extrêmement fines. On est moins à, parfois pour certaines d'entre elles, entre 1 et 2 cm, des trucs qui sont très longs. Quand on les prend, faut faire attention parce qu'on pourrait les casser. Ils se sont embêtés à tailler ça. Mmh. Donc bon, ça sert à rien pour la chasse, c'est évident.
Oui. Hein.
Mais par contre, le prestige social d'avoir ce genre de choses est là. Donc là, c'est pas de l'opportunisme. Hein.
Ouais.
C'est vraiment culturel là pour le coup.
D'accord.
On a ça également au paléolithique. Hein. Ben pour couper un arbre avec une hache, il faut polir le tranchant. Et ben très souvent, ils se sont embêtés à polir toute la lame. Ça sert à rien.
Ouais.
Techniquement, mais socialement, c'est important.
D'accord.
Socialement, c'est certainement important. Donc on a ces deux volets-là, l'opportunisme qui amène à faire en sorte, on se rend compte que c'est plus pratique comme ça. Et puis il y a le volet culturel et qui mène souvent à des choses un peu surprenantes si on reste uniquement dans le paradigme technique, c'est-à-dire il faut que ce soit utile. Mais par contre, quand on prend en compte la société, nous, ça nous renseigne beaucoup sur les sociétés d'époque. C'est particulièrement intéressant de voir ces outils très perfectionnés techniquement, qui nécessitent de la belle matière première, donc qui circulent sur des grandes distances et qui ont servi à rien.
Tu parles beaucoup d'outils, mais tu parles pas beaucoup d'armes. Est-ce que tout ça, c'est un peu lié ou il n'y avait pas encore trop d'armes?
Pour moi, les armes, c'est des outils. Donc, c'est des outils de chasse en gros. Après, les outils spécifiques pour la guerre, donc des choses qui vont être uniquement vouées à la guerre, ça apparaît à l'âge du bronze. On n'en a pas à la préhistoire. Des outils qui sont spécifiques. Alors, ça a pu servir aux deux, mais on n'a pas d'outils spécifiques pour la guerre à ce moment-là. Donc ça c'est pour le néolithique. Donc et puis on va avoir le néolithique qui va émerger. Donc ça c'est pour le Proche-Orient. Il va émerger également dans la cordillère des Andes. Il va émerger également en Asie du Sud-Est. Il va pas prendre les mêmes formes évidemment. Ça va pas être les mêmes animaux.
Ouais.
Ça va pas être les mêmes plantes. Dans certaines régions on va plus domestiquer. Dans d'autres régions on va plus faire d'agriculture. C'est vraiment en fonction des régions bioclimatiques que ça va se mettre en place. Donc toujours un peu difficile de donner des dates puisque sur certaines régions on veut toujours avoir le plus vieux, donc c'est un petit peu la bagarre par rapport à
tout le monde bataille,
la grande bagarre de j'ai le plus vieux chez moi.
Ouais.
Donc ça c'est compliqué parce que pour nous du coup avoir des données fiables c'est pas si simple en fait, c'est loin d'être si simple puisque c'est la grande bagarre.
Estelle, avant de faire la coupure musicale, je t'annonce que derrière cette coupure, tu nous feras un petit résumé, si tu le veux bien, évidemment. Et donc, ça sous-entend qu'il faudrait que tu arrives à conclure le néolithique sur ces...
Alors, je conclue le néolithique. En 2500, en Europe, en 2500 avant Jésus-Christ, en Europe occidentale, on arrive à l'âge du bronze.
Ah.
L'âge du bronze, voilà, âge du bronze, où on commence à avoir ces fameux événements, pour reprendre l'intitulé de l'émission. On a notamment la première bataille, la première grande bataille rangée d'Europe occidentale. Donc un grand événement quand même.
À Marignan. 1200
avant Jésus-Christ. Ça se passe en Allemagne. Et on a retrouvé les restes de plusieurs milliers de combattants, des centaines de morts sur le terrain, des armes, des épées, bref, un vrai gros truc. Voilà.
Mais alors quoi là, attends là, donc ça sous-entend que ça y est, ils ont déjà inventé le, bah j'en sais rien, en quoi ils étaient faits, le fer, oui, c'est peut-être l'âge de fer, l'âge du fer à ce moment-là.
Le bronze, l'âge du bronze.
Là, tout était en bronze pour les armes là.
Voilà, elles sont toutes en bronze les armes. Donc okay. On a des flashs, on a des... Et donc tout ça, c'est... Des... Alors, pendant l'âge du bronze, donc voilà, quand on arrive dans l'entre, quand on entre dans l'âge des métaux, pendant toute une période, la plupart des gens, ils ont que des outils en pierre, toujours. Hein.
Ah,
et
oui.
Au début, c'est que les chefs qui ont... Et on va le retrouver que dans les tombes des chefs, des objets en bronze, c'est uniquement des objets de prestige, souvent, au départ. Et puis, progressivement, donc, le métal va se vulgariser. Mais au départ, c'est vraiment très réservé. Alors, comme tu disais très bien, le bronze, c'est un alliage entre le cuivre et l'étain.
Oui.
Alors, et ça, c'est très particulier. Bon, déjà, l'âge du cuivre, où il a fallu fabriquer des objets en cuivre, ça a été une sacrée étape, hein, parce qu'il a fallu transformer la matière en la chauffant.
Voilà.
Rien. Au départ, c'est essentiellement des objets de parure, voilà. Donc probablement une fois de plus par accident, il s'est trouvé que on a commencé à faire ça et puis en transformant la matière, il devait y avoir des essais. Hein, c'était des gens certainement très curieux puisque vu toutes les matières qu'ils ont tenté d'essayer, moi je travaillais sur les différentes roches qu'ils ont taillées, mais ils ont taillé de ces trucs parfois des trucs entièrement faillés. Enfin, ils ont tout tenté. Hein.
Mmh. Alors c'est vrai qu'on est avec le cuivre et l'étain avec deux matériaux particulièrement tendres, malléables,
ouais.
Et que c'est vrai qu'on s'imagine pas que, ou alors comme par hasard, comme tu disais, que le mélange des deux allait donner quelque chose d'un peu plus solide.
C'est ça, ouais. Et donc, et en plus, ce qui est particulier, c'est qu'en général, le cuivre et l'étain ne se trouvent pas au même endroit.
Ah.
Géographiquement parlant. Donc, ça suppose évidemment des circulations et puis des échanges. Qui était important. Mmh. Donc c'est d'autant plus étonnant hein, qu'il l'ait fait. Et puis ben, au final, donc ils obtiennent ces armes. Et comme je vous dis au départ, c'est quand même des choses qui sont réservées à une élite. Hein. Donc ça ne devait pas être facile, c'était pas utilisé, c'était vraiment une espèce de banque, hein, comme on met des lingots d'or dans une banque. Et ben là, on faisait des objets qui étaient particulièrement précieux. Qui n'étaient pas utilisés. Petit à petit, ils vont être utilisés, essentiellement pour la guerre. Et puis, à la fin de l'âge du bronze, ce sera utilisé pour plus de choses, en fait, plus pour le quotidien.
D'accord.
Mais ça suppose quand même des sacrés réseaux, une intensification, hein, des circulations et puis des échanges.
Voilà.
Avec des gens qui donc circulent sur l'Europe.
Donc, et qu'est-ce qui avait le plus de valeur
Qu'est-ce qui avait le plus de valeur
dans
ça va dire qu'il va y avoir d'énormes échanges culturels aussi, hein, oui. Des gens qui vont être de plus en plus en relation. Donc la Bretagne va particulièrement tirer son jeu à ce niveau-là parce que la Bretagne est riche en étain. Donc du coup, on va avoir énormément de tombes princières qui vont être découvertes en Bretagne avec une hiérarchisation de la population. Et comment ça arrive l'âge du bronze aussi? Donc là, c'est les études génétiques nous montrent qu'il y a une rupture. On a des populations viennent de l'Est, de l'Europe, et qui vont du coup venir en Europe occidentale. Donc, les populations européennes actuelles sont héritières hein, ben, des populations paléolithiques, des populations néolithiques qui viennent du Proche-Orient. Et de ces populations aussi, il y a eu un apport énorme de populations à l'âge du bronze.
Mmh.
Donc, et c'est les généticiens qui actuellement essaient de déterminer ben, qui étaient ces gens. Hein. Ils seraient originaires à peu près des environs de la mer Caspienne. Mmh. Et ce qui est intéressant à démontrer, c'est que autant en néolithique, ben, c'était des populations, elles sont venues très progressivement, doucement, donc c'est des hommes et des femmes qui se déplaçaient. Autant pour l'âge du bronze, apparemment, ce nouvel apport de population est essentiellement constitué d'hommes.
Ah.
Donc voilà, c'était des populations d'éleveurs nomades des steppes qui sont venues en Europe occidentale. Donc là, on a quelque chose, alors que pour le néolithique, vous aviez compris que c'était, on y allait petit à petit pour migrer. Là, c'est vraiment, ça vient d'un coup en fait.
Il y a D'accord.
plusieurs populations qui viennent, mais c'est pas des agriculteurs et des éleveurs. C'est D'accord. des nomades.
Ouais.
C'est des nomades des steppes, des nomades qui sont éleveurs, certes, mais c'est des nomades. Donc c'est pas la même mentalité que des agriculteurs.
Mmh.
Donc là encore, pour comprendre les mobilités à cette époque-là, il faut savoir si on parle de gens qui sont sédentaires agriculteurs ou si on parle de gens qui sont éleveurs. Nomades. Ils ne vont pas du tout avoir la même attitude.
Mmh. Très bien. Estelle, messieurs, dames, vous êtes toujours sur Histoire épique. On apprend plein de choses. On est tombé évidemment sur une passionnée. Donc très difficile à couper, bien entendu, parce que tout est intéressant, hein, tout simplement. Mais nous allons quand même, très chère Estelle, faire cette coupure, petite coupure musicale avant d'attaquer le résumé de cette énorme période que tu adores, que l'on adore et que vous aimez aussi, évidemment, sur l'autre radio. À tout de suite, messieurs dames.
J'ai vu qu'il y avait Olivia Ruiz qui avait fait une chanson qui s'appelle Le sel.
Ah !
Une des dernières, donc c'est peut-être l'occasion de la placer.
Quand au fond le camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles. Que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle de piment. Que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Chancito, tu so. sei solo tu, sei solo tu.
Allez, messieurs, dames, c'est reparti pour le dernier moment préhistoire avec Estelle. Mmh. Ça y est, on est sur la conclusion de toute cette magnifique période. On a compris le paléo, on a compris le méso, ouais. Le néo, les
échanges.
Quel voyage, mon Lionel, extraordinaire. On en est à la mondialisation sur cette fin de néolithique. On en est à la métallurgie sur cette fin de néolithique avant d'arriver à cette fameuse rupture que là, pour le coup, je crois, on connaît tous, qui passe de la préhistoire. L'histoire, à savoir l'écriture. Estelle, tu as maintenant la performance à réaliser. Performance pas facile, attention, hein. Tu as exactement 10 minutes pour nous faire un résumé de combien de millions d'années, finalement, Lionel, de quasiment 3 ou 4. Combien Estelle?
Bon, 3-4, quoi.
Ouais, 3-4 millions d'années en 10 minutes. C'est parti, sois forte.
La machine a remonté le temps.
Redonne-nous les marqueurs importants. Classe-nous ça un petit peu pour que dans la tête des gens, ce soit un petit peu plus fiable, même si tu nous l'as dit et répéter que c'est pas si simple que ça, que c'est pas partout de la même manière. Il y a quand même quelques petits éléments qui sont quand même marquants pour l'ensemble de la population à cette époque-là.
Très bien. Alors bon, je vais essayer. Alors l'histoire humaine commence il y a 3-4 millions d'années et on va considérer qu'on rentre dans le paléolithique à partir du moment où on rentre avec le genre Homo.
Voilà, donc
avec Homo habilis, le premier à fabriquer des outils, même s'il s'est remis en cause, puisque on a découvert que les Australopithèques, certains groupes d'Australopithèques en tout cas, ont fabriqué des outils.
Oui, alors toutes ces petites nuances, tu vas les sauter, parce qu'autrement on y aura le droit à chaque fois que c'est remis en cause évidemment, mais comme tout, bien sûr, en histoire et préhistoire, donc on va quand même aller sur des certains poncifs, mais il va bien falloir.
Donc, voilà. Donc, l'histoire humaine commence vers 3-4 millions d'années. Ensuite, la grande différence, c'est le moment où on va commencer à fabriquer des outils. Donc, pas seulement utiliser des choses comme outils, mais fabriquer des outils. Donc, on est une espèce qui fabrique. Et ça va être quelque chose de fondamental pour nous.
Et on rappelle...
Ensuite, on va avancer dans le temps... Tu vois, je suis pas mal là.
Fort, avant, très fort.
Pouf. Et puis, grand événement, grand changement, grande invention, certainement la plus grande invention qu'on ait jamais faite, c'est la maîtrise du feu.
Oui.
Qui va déclencher tout un tas de phénomènes en cascade, aussi bien depuis notre anatomie qui va être transformée, puisqu'on aura besoin de moins mâcher, donc notre crâne va être modifié, notre métabolisme qui va mieux supporter aussi les bactéries, etc., etc. Le fait que le groupe va plus se rassembler autour du feu, donc commencer la communication.
Oui.
On va avoir des armes plus efficaces, parce qu'un bois qui a durci dans le feu est beaucoup plus dur qu'un bois autre. Bref, c'est une invention qui est fondamentale pour l'être humain. Et évidemment, les chercheurs s'arrachent pour dire quel groupe humain l'a inventé en premier.
En général, tu nous dis que c'est en Bretagne, toi.
Oui, alors oui. Exactement. Alors en Europe occidentale, en Bretagne.
Voilà.
Voilà, on a à Ménez-Brégand, à Plouinec. En Finistère, il y a 460 000 ans, l'une des plus anciennes traces de feu d'Europe occidentale.
Ah, mais ça c'est vrai alors, oui. Ça, c'est pas des...
Ah oui, oui, c'est vrai.
D'accord.
Oui, c'est une chose en Bretagne.
Et là, tu parles d'Europe occidentale, donc là, peut-être les premières traces de feu, donc moins 460 000. Et il y en a d'autres quelque part sur le globe?
Alors, il y en a d'autres. Il y a Altamira. Il y a dans le sud de la France, il y en a quelques-unes autres. Donc qui sont aussi très anciennes. Et après, le problème, c'est qu'on veut toujours le plus vieux, le plus,
oui.
Le plus gros, le plus machin, le plus truc. Donc, en Chine, il y a très bien pu avoir des traces de feu très anciennes aussi, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué d'avoir les données, quoi.
Oui, d'accord.
Donc voilà, souci à ce niveau-là. Donc, on fait un bond en avant, parce qu'on m'a dit faire un bond en avant.
On a oublié de préciser, Estelle, au moment où tu nous disais le genre homo qui démarrait la préhistoire, et on a oublié de préciser qu'il y avait à cette époque-là encore plusieurs espèces homo qui cohabitaient.
Ah oui, il y avait plusieurs espèces humaines. Il y a 100 000 ans, en fait, il y avait certainement une dizaine d'espèces humaines, voire beaucoup plus, qui existaient.
Voilà.
Et là, une fois de plus, la génétique montre aussi qu'il y a des espèces, il y a des choses qui sont inexpliquées, donc il y a des espèces qu'on n'a pas encore découvertes.
Ah oui.
Donc il y a encore tout un champ d'études à découvrir en termes d'anthropologie. Hein, savoir la différence à partir de quand on dit qu'on est avec un homo habilis ou un homo erectus ou un proto habilis ou un proto erectus, c'est très compliqué en fait. Hein. Donc là encore, il y a beaucoup de discussions autour de tout ça, beaucoup de discussions pour savoir en fait aussi... Donc, quand a émergé notre ancêtre à tous ? Donc, nous sommes tous des homo sapiens. Et donc, où et quand ça s'est passé pour nous ? Donc, on sait qu'on vient d'Afrique, c'est certain.
Oui.
La date, quant à elle, est vachement plus compliquée à imposer, puisque faire la différence entre un homo erectus et évolué et un proto-sapiens, c'est pas simple. Donc, à partir de quand on considère qu'on est sur un proto-erectus évolué ou alors sur un proto-sapiens ?
Oui.
Voilà. La différence entre les deux n'est pas évidente.
D'accord. En tout cas, on est dans un résumé. Je rappelle, on est dans un résumé.
On vient d'Afrique et ça se passe il y a 300 000, 200 000 ans.
Voilà, très bien.
Voilà, donc maintenant j'avance.
Oui.
Donc Sapiens sort d'Afrique.
Sapiens
sort d'Afrique. D'autres groupes étaient sortis d'Afrique bien avant lui. Sapiens commence à sortir d'Afrique. Sapiens est un nomade à l'époque. Et puis dans cette période de nomadisme, il va partir découvrir des territoires, très bizarrement, parfois très loin des hommes bioclimatiques qu'il connaît. Il va aller jusqu'en Australie, il va traverser la mer, il va naviguer, parce qu'avec la ligne de Wallace, on ne peut pas passer d'Asie du Sud-Est à l'Océanie comme ça. Et il faut de la navigation volontaire en plus, donc puisqu'il y a les courants, ils sont pas favorables. Donc on va aller en Australie. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Il y a 60 000 ans.
Et
donc
oui.
Sachant que les espèces, il y a aucune espèce animale qui a fait le trajet. Et c'est pour ça qu'on a autant d'espèces endémiques, par exemple en Australie, parce que les animaux, eux, ils n'ont pas fait ce trajet-là. Mmh. Il n'y a que les humains qui l'ont fait. Fabuleux. Et on va se retrouver en Arctique, alors que à la base on vient d'Afrique, donc on va se retrouver en Arctique dans des conditions très compliquées. Tout ça pourquoi aussi ? Ben parce qu'on, entre autres, parce qu'on suit des troupeaux d'animaux et il y a certaines régions qui sont particulièrement riches en espèces animales. Et pour nous, aujourd'hui, l'Arctique est peut-être une région très hostile, mais quand on discute avec des Inuits, ils considèrent que c'est une région très riche parce que il y a plein d'espèces à chasser.
Mmh.
Donc Sapiens, un navigateur, Sapiens, un explorateur, il va partir à la conquête de tous les continents. Et puis Sapiens, l'artiste, qui va peindre toutes les grottes que l'on connaît.
Mmh.
Un artiste aussi en technologie de la pierre. Il a fait des choses juste extraordinaires en termes de taille de pierre. Il y a 100 000 ans, il commence à enterrer les humains, ses proches. Néandertal le fait aussi. Néandertal qui lui vivait donc avant Sapiens en Europe, donc c'est un Européen, il n'est jamais passé par l'Afrique, Néandertal lui. Et il y a un petit peu de mélange, on a un petit peu de Néandertal en nous quand on est Européen, d'origine européenne.
Mmh.
Voilà, par contre Néandertal lui ne va pas développer la parure comme va le développer Sapiens il va développer énormément tout ce qui est bijoux, parures, objets de prestige, des choses comme ça. Néandertal aura également tendance à ne pas trop bouger et Sapiens beaucoup plus, et c'est peut-être ça qui explique qu'au final Sapiens ait gagné dans cette compétition, peut-être qu'il y a eu entre les deux, peut-être pas, on ne sait pas pourquoi Néandertal a disparu exactement, il y a plein de raisons que je ne vais pas reprendre parce que c'est un petit peu compliqué.
Tu nous avais parlé de la révolution du vêtement également, du vêtement cousu.
Exactement, le vêtement, alors pendant longtemps on s'était dit c'est parce qu'on a commencé à faire du feu qu'on allait dans les régions froides, ce qui est faux, puisqu'on allait dans la région froide parfois même avant de faire du feu, même si bon, on n'est pas allé quand même beaucoup, mais un petit peu. Et par contre, voilà, à partir du moment où on a pu coudre des vêtements, on a pu voilà, explorer des régions beaucoup plus lointaines, ça c'est certain. En tant qu'humain, donc en tant qu'espèce animale venant d'Afrique, on n'est pas du tout, du tout conçu pour aller en Arctique.
Oui.
Et si on marche dans la neige, donc les gels. Donc voilà. Alors ensuite, donc ces populations ont une très grande diversité culturelle, hein, jusqu'au paléolithique moyen, jusqu'à peu près, jusqu'à Néandertal. On est capable hein, de donner des dates, si ça se passe comme ça et tout ça, partout dans le monde à peu près en même temps. On a les bifaces, on a les chopeurs, on a tout ça. Et puis à partir du paléolithique supérieur, c'est très différent d'une région à l'autre. Donc une très forte diversification culturelle qui se met en place. Chaque groupe a ses caractéristiques au niveau de la taille de la pierre, au niveau de la culture matérielle. Donc on a une très grande diversité qui se met progressivement en place. Voilà. Ensuite, dans certaines régions, pas dans toutes, et notamment là, il va falloir resserrer géographiquement. On ne parle plus à l'échelle mondiale, ce serait trop compliqué. Donc on parle à l'échelle de l'Europe occidentale. Va se mettre en place le mésolithique, qui est la période pendant laquelle on garde un mode de vie chasseur-cueilleur, mais dans un environnement qui devient forestier, puisque le climat se réchauffe, donc progressivement il va y avoir plus d'arbres, donc la culture matérielle va devoir évoluer elle aussi, les humains vont beaucoup moins se déplacer, au moins dans certaines régions. Ils vont exploiter à fond, par contre, leurs ressources locales. Et puis, on commence à avoir également de plus en plus de vestiges. En Europe occidentale, ben, on a des vestiges particulièrement nombreux le long des côtes, au Danemark, en Bretagne, évidemment, au Portugal, mais aussi en Russie forestière, donc dans des régions, en fait, autour des lacs ou autour des littoraux. On a, voilà, et puis on a quand même des populations un petit peu partout, donc on connaît pas les densités humaines de l'époque, mais on a quand même des sites qu'on retrouve tout le temps, en fait, un petit peu partout. Donc c'est des populations qui se sont adaptées au climat forestier, donc qui ont des outils qui sont pas du tout prestigieux, donc pendant longtemps cette période a été considérée comme une période de décadence. Et bon, évidemment, c'est complètement faux. Hein. C'est juste une adaptation à un autre environnement et des outils qui deviennent plus composites, donc moins spectaculaires. C'est vrai que dans un musée, à regarder des trucs du Mésolithique, ça fait pas rêver. Mais parce que ça fait quelques centimètres et encore quand ils sont gros. Mais c'est faut imaginer que c'est des outils composites, donc beaucoup plus compliqués que ce qu'on a sous les yeux. Ils mettent également en place des pêcheries, des choses comme ça, donc des choses qui se diversifient de plus en plus. Donc ensuite, après cette grande période, on a des foyers de néolithisation qui vont se développer partout dans le monde, à des époques différentes et dans des régions bioclimatiques différentes. Donc il n'y a pas de relation entre ces foyers de néolithisation. Elles sont c'est pas un lien, c'est voilà. C'est une néolithique qui émerge pour différentes raisons. À ce moment-là. Par contre, ce qu'on appelle néolithique, et l'outil qui va être vraiment caractéristique de cette période et qu'on va retrouver partout dans le monde, là pour le coup, c'est la lame de hache polie. Puisqu'elle va servir à défricher. Et donc, ils ont besoin de bois pour faire des maisons, pour faire des clairières, pour faire des bateaux, pour faire des grands champs. Donc, on va retrouver ces lames de hache polie un petit peu partout dans les régions qui rentrent dans la néolithisation. Dans les régions qui ne rentrent pas dans la néolithisation, on ne retrouve pas ou très peu ces lames de hache polie. Alors, quelles sont les régions qui ne vont pas rentrer dedans? C'est les régions qui sont trop favorables, où on a assez avec ciel dans la nature, ou les régions où on ne peut pas pratiquer l'élevage et l'agriculture. Parce que la caractéristique du néolithique, c'est quand même ça, l'élevage et l'agriculture.
Tout à fait.
Donc, voilà. Donc, dans d'autres régions du monde, ils vont stocker des aliments. Donc, on va rentrer dans des sociétés hiérarchisées, des sociétés avec du stockage, mais qui ne vont pas rentrer pour autant dans l'agriculture. Donc, c'est assez différent. Donc on constate à partir du néolithique donc une hiérarchisation de la population, des populations aussi où on sent qu'il y a plus de guerres, de batailles, parce que on va retrouver des enceintes fortifiées. On a besoin de se protéger, on a besoin de protéger son champ, on a besoin de protéger son village. Il y a des compétitions territoriales certainement qui naissent. On a aussi des massacres, des traces de massacres beaucoup plus importantes qu'aux autres périodes qui commencent à se développer. Donc des populations qui sont plus confrontées aux conflits territoriaux. Et alors pour certains archéologues, hein, l'émergence de phénomènes comme le mégalithisme, c'est lié hein, à ces confrontations. Bon, faut essayer d'être le meilleur. Donc on commence à avoir des sépultures aussi qui sont qui se développent et puis et à l'intérieur desquelles on ne retrouve que des personnages importants. On le sait hein, parce qu'on sait qu'il y avait peu de monde à l'intérieur. On le sait parce qu'on a des, on retrouve des objets de prestige et aujourd'hui de plus en plus on le sait aussi grâce à l'ADN puisque il y a des tests qui sont faits en Angleterre par exemple, il y a des tests ADN qui ont été faits dans les ossements trouvés dans les cairns, il s'est trouvé que il y avait des liens familiaux. Donc voilà, on a des sociétés qui sont hiérarchisées pour lesquelles il y a des tombes spécifiques. Que ce soit des très grands cairns, des dolmens, on a une émergence de tout ça au néolithique. Progressivement ensuite va se mettre en place des grands échanges sur des grandes distances. Au mésolithique, on exploitait les ressources locales. Au néolithique, on va faire des grands échanges. Donc là, c'est pas des populations qui bougent, hein, c'est des marchands qui bougent, des colporteurs qui bougent de proche en proche évidemment. Et puis, on va se retrouver avec une circulation des matières premières assez importante. Alors, on va progressivement ensuite à la fin... Donc, qui c'est qui amène le néolithique en Europe ? Eh ben, c'est pas... Le néolithique, il n'est pas né en Europe. Hein. C'est pas des mésolithiques qui deviennent néolithiques. Pas du tout. C'est des populations du Proche-Orient qui arrivent en Europe avec leur matériel, avec leur culture matérielle, et avec même leurs animaux et leurs plantes, et qui petit à petit vont arriver en Europe. Ils vont mettre 5000 ans à aller du Proche-Orient en Europe, donc c'est un petit peu long. Dans les foyers de néolithisation, par contre, c'est une évolution des populations sur place qui amène le néolithique. Donc on a des scénarios très très différents en fonction des régions du monde à partir de pour cette néolithisation.
Et donc, s'en suivront le développement des villes, le développement du commerce,
le développement des... Donc, du coup, le développement... Ben, les gros villages, ils vont se densifier. Donc, un gros village qui se densifie devient une ville. Dans une ville, ben, les gens, ils se spécialisent, évidemment. Donc, on a une spécialisation des activités. Et puis, dans les villes, se développe également ben, l'écriture, d'abord les chiffres. Parce qu'il faut pouvoir fixer les choses. Et puis déjà, pour les échanges, quand ils deviennent plus importants, fixer les échanges par des chiffres. Donc, la naissance de l'écriture est directement liée à la naissance des villes. De toute façon, c'est contemporain, c'est 3005 avant Jésus-Christ, la naissance des premières villes et la naissance des premières écritures.
D'accord.
Donc, un phénomène qui est très lié là.
Et la simplification du travail d'historien, puisque vous pourrez vous baser sur de vrais écrits, même si évidemment, certains historiens, on parle beaucoup à l'époque du Vésuve, de Pline le Jeune, Pline l'Ancien, qui auraient raconté à leur manière aussi l'éruption de l'Etna. Mais donc j'imagine que tous ces premiers historiens aussi ont peut-être raconté quelques fables, mais sur lesquelles vous vous reposez pour reconstruire un peu notre histoire.
Voilà, on va avoir du coup avec l'écriture une autre source documentaire. Mais qu'il ne faut pas, pendant longtemps, les historiens et les archéologues vivaient dans deux mondes différents. Et pas question de se confronter. Il faut absolument mêler les deux, parce que c'est une autre source de documentation, l'écriture, mais ça ne peut pas être la seule source de documentation. C'est pas possible. Il faut pouvoir confronter les données. Et quand on fait de la préhistoire tout particulièrement, eh ben, il faut toujours confronter les données. On ne se base jamais sur un seul domaine, c'est impossible.
Oui. Voilà. Je sais pas si notre programmateur nous laisserait le temps, évidemment, mais cette fameuse écriture passée du hiéroglyphe égyptien où clairement bah, on met en scène en fait des petits bonshommes qui transportent un sceau, qui ainsi de suite, donc on lit une image jusqu'à l'abstraction totale d'une lettre. Je trouve ça phénoménal, moi, comme avancée. Et ça sur le globe, ça se fait où en premier, Estelle, ça?
Alors ça, sur le globe, dans notre ère culturelle dont je parle depuis le début, c'est le Proche-Orient, une fois de plus,
ouais.
Puisque c'est là que sont les premières villes. Donc c'est la Mésopotamie et c'est l'Égypte. Et alors, en Égypte, en fait, au départ, c'était pas si compliqué que ça, les hiéroglyphes. Ils ont complexifié la chose, parce que ceux qui étaient capables de lire et d'écrire avaient évidemment le pouvoir. Et donc, on constate qu'en fait, les hiéroglyphes, pendant toute une période, ils vont se complexifier parce que c'est une énorme source de pouvoir que pouvoir écrire. Et c'est vrai, comme tu dis, ben, la naissance de l'alphabet, là par contre, c'est. Donc, on a les premiers alphabets avec les Phéniciens, avec tous ces gens-là. C'est particulièrement impressionnant aussi de se dire que ben, là, le signe devient un son.
Oui.
Pour passer de cette époque-là, il y a eu plein de périodes transitoires, hein, puisqu'on a d'abord les pictogrammes,
oui.
Donc qui sont vraiment des dessins qui représentent un objet. Et après, l'écriture cunéiforme, on est quand même avec déjà des signes qui représentent parfois des objets, mais aussi parfois des sons et parfois des idées. C'est la même chose pour les hiéroglyphes. Donc on va avoir toute une phase transitoire, et on parle même parfois de proto-écriture pour des gravures qui sont très répétitives. Dans la Vallée des Merveilles, par exemple, dans les Alpes, on a des signes très répétitifs, toujours les mêmes choses, avec le symbole du taureau qui revient systématiquement. Et là, de plus en plus, on parle en fait de proto-écriture, donc des dessins qui racontent des histoires.
Et qui fait ce fameux passage, comme je disais, donc de la préhistoire à l'histoire. Nous étions avec Estelle Champollion, hein, qui a découvert l'écriture. et on va conclure là-dessus. Estelle, je pense, à moins que tu aies quelque chose de fondamental à nous apprendre encore. Mais on a déjà été très, très, très gâtés avec tes interventions sur l'autre radio. Merci beaucoup pour tout. Mais j'espère que, chers auditeurs, vous êtes éclairés maintenant sur toute cette période méconnue, mal aimée. Très très souvent, mais finalement qui se révèle être passionnante grâce notamment à des gens comme Estelle. Donc merci beaucoup, mon cher Lionel.
3 heures pour 3 millions d'années, c'est un raccourci.
C'est un beau raccourci. Estelle, on te laisse à tes recherches, puisque toi ça continue, ça ne s'arrêtera jamais, je crois.
Non, c'est même parti pour que ça s'arrête, parce qu'il y a toujours des champs nouveaux à explorer. C'est absolument incroyable. Chaque fois qu'on commence à toucher un domaine, on se rend compte qu'il y a tout à refaire, tout à documenter, qu'il faut aller beaucoup plus loin, qu'on a fait des simplifications et qu'il faut aller plus loin que ça.
Alors, on peut qualifier ça.
Les sociétés humaines sont passionnantes.
J'imagine. Certains verront ça comme un travail vraiment ingrat, hein, de tout recommencer à chaque fois. D'autres trouveront ça passionnant comme toi. En tout cas, ça nous fait avancer. On te remercie beaucoup, beaucoup pour ce très, très bon moment préhistorique.
Merci, Estelle.
Merci à vous.
Et au revoir à tous. Et on se retrouvera après les grandes vacances pour une nouvelle période historique. Alors, est-ce qu'on aura la chance de suivre chronologiquement l'histoire? Je ne sais pas. Mais on va essayer en tout cas de faire les choses bien. On vous souhaite un très très bel été. Continuez à lire de l'histoire, c'est passionnant. Et notamment de la préhistoire avec de très belles œuvres d'Estelle Yvain, bien entendu. Merci Estelle encore. Merci à vous de nous écouter. Et on se dit à septembre prochain. Merci mon Lionel.
Ciao, ciao Benoît.
Kenavo.
Et ben voilà, c'est terminé. Bon, ben super.
Bravo.
Super, 1h02.
Ouais, ça va.
Ça va gueuler un peu, mais c'était la dernière, donc on avait trois droits de tête un peu dépassés là.
D'accord.
J'ai encore une question qui me brûle les lèvres, mais je voulais pas la poser pour pas rallonger encore un peu. C'est par rapport à l'écriture. Tu as dit à un moment donné, Estelle, que c'est venu et par une certaine nécessité avec les chiffres. Alors j'ai envie de dire, les chiffres, il y en a toujours eu besoin, donc je sais pas comment ils faisaient avant. Mais est-ce qu'il y a des... T'as parlé de proto-écriture où il n'y a que des chiffres.
Non. Non, par contre, tu vois, parfois, il te dessine des séries de taureaux, des trucs comme ça, et c'est comme pour l'écrit, tu vois. L'alphabet, c'est quand même une très grande simplification, donc au départ, c'est pas des chiffres non plus, c'est des petits dessins qu'on ajoute les uns à côté des autres, et puis qui vont finalement se transformer en barres. C'est des pictogrammes, en fait, au départ, c'est des petits dessins qu'on représente. Hein.
D'accord, t'as tout pigé, Lionel.
Par exemple, trois vaches, ça va être trois dessins de vaches. Et puis progressivement, ces trois dessins de vaches, tu vas avoir une vache avec trois barres à côté pour dessiner que c'est une vache, que c'est trois vaches. Ouais. Et c'est quelque chose qui va venir très très progressivement, tout ça, en fait. C'est...
Comme le reste, je crois.
Ouais. Avec plein de nuances.
Ah, c'est super. C'est super. Et bon, c'est tout, Estelle. On sait tout sur tout. C'était
ouais.
super.
Bon, ouais. bon, vraiment, parce que pas moi. Hein.
Nous, on est beaucoup plus futés ici.
Forcément. Ouais.
Allez, c'est super. Je te rappelle pour qu'on débriefe de tout ça.
Très bien. Bah, écoute. À bientôt,
ouais.
bravo, et la pluie arrive par chez nous.
Oh voilà. Merde, non.
Donc, vous allez ramasser en 2 heures, c'est bon pour vous, et sinon 3-4 heures.
D'accord, allez, on prend, on a besoin. Allez, salut la grande.
Salut.
Ciao, ciao, bisous.